Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Salut les fous du volant, on est très heureux de vous retrouver pour votre podcast consacré à la Formule 1. Alors il y a quelques jours, on a un peu galéré pour se remettre à l'heure d'été. Et ben figurez-vous que le week-end prochain, il va falloir se mettre à l'heure australienne. T'es prêt à jouer de la montre, Stéphane?
Alors on est des passionnés, donc on sera matinaux. Hein.
Ah ben, il n'y a pas le choix. Alors que la caravane de la Formule 1 a posé ses valises du côté de Melbourne pour la troisième épreuve du championnat en Australie, avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va essayer de faire un bilan des deux premières courses avec les tops et les flops de l'entame du championnat. On essaiera aussi de tirer les enseignements des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite concernant les changements qui ont été effectués en 2022. La nouvelle aéro, évidemment, était là pour donner plus de spectacle, une nouvelle direction de course aussi. Est-ce que ça va dans la bonne direction? On en parlera. Et puis, à peine entamé cet exercice 2022, que de nouvelles destinations ont été officialisées. En fait, une tout particulièrement, la F1 ira à Las Vegas en 2023. Est-ce que Las Vegas pourrait venir remplacer un événement historique dans le calendrier de la saison prochaine? On évoquera cette possibilité. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec nos tops et nos flops du début 2022. Alors on aura trois tops et trois flops à vous proposer avec Stéphane. Je me donne la priorité, Stéphane.
Allez,
je commence avec le top. Bah, pour moi, le premier top, alors on n'a pas voulu mettre Charles Leclerc, qui aura eu, à mon avis, tous les suffrages. Moi, je voudrais parler de George Russell, quand même, parce que George Russell, qui arrive chez Mercedes, en proie à son plus mauvais début de saison, on l'a dit, hein, depuis 2013, et le Britannique n'a pas eu un mot négatif depuis le début de la saison. Il est devant son coéquipier Lewis Hamilton au championnat, et finalement, on le sent un petit peu dans la continuité de ce qu'il faisait chez Williams. Il porte l'équipe.
Ah oui, complètement. C'est même lui qui a assuré les meilleurs résultats jusqu'à présent. Enfin,
ah,
en tous les cas,
podium.
Sur le deuxième. Voilà, c'est ça. Donc, il était là pour sauver les meubles sur le deuxième Grand Prix. On verra véritablement l'impact qu'il a sur le développement, comment est-ce qu'il peut guider l'équipe. Mais en tous les cas, il est présent, il collabore bien. Il se met dans la peau vraiment d'un team player. C'est ça qui est important. Il n'est pas là pour monter sur la tête d'Hamilton. Il sait que ce n'est pas son rôle, il sait où est sa place.
Alors justement, on sait que les premières semaines, quand on arrive dans une équipe, et tout particulièrement dans un top team, c'est déterminant pour la suite. On a eu un exemple assez récent, et avec un Français, hein, Pierre Gasly, lorsqu'il est arrivé chez Red Bull, il s'est retrouvé en difficulté. Dès les essais de Barcelone, il y avait eu une sortie de piste, et déjà on avait senti que les choses étaient mal embarquées. Non seulement il n'y a pas eu de sortie de piste pour George Russell, alors il y a eu ce podium pour Lewis Hamilton, mais en plus... on sent, hein, Lewis Hamilton, on en parlera d'ici les prochaines semaines du cas Lewis Hamilton, mais on sent vraiment qu'il est là, qu'il a pris sa place dans l'équipe. Et c'est même à se demander si c'est pas lui qui va finalement assurer une des plus grosses parts du développement de cette W13. Parce que on se demande en fait l'espérance de vie de Lewis Hamilton. En Formule 1 avec cette auto. Peut-être que Mercedes est en train de se dire que finalement, il y a plus de chances que George Russell fasse davantage de saisons avec cette voiture que Lewis Hamilton.
Alors oui, sûrement, Gilles. Je mettrais juste un petit bémol par rapport à ça, c'est que Toto Wolff avait dit que chez Williams, il avait des retours de difficultés parfois de Russell à régler la voiture, qu'il prenait des chemins de setup qui étaient assez extrêmes et qui se plantaient. On va dire ça comme ça. Mais il y a une méthodologie beaucoup plus claire chez Mercedes. On l'a vu, ils se soutiennent. Ils sont là pour avancer dans la même direction. Puis après, quand la voiture commencera à être bonne, c'est là qu'on verra que chaque pilote voudra un petit peu avoir la voiture à son goût. Et c'est là qu'ils commenceront à essayer d'influencer un petit peu l'équipe et le développement pour avoir ce qu'ils veulent précisément en fonction de leur style de pilotage. On n'en est pas là. Et Russell joue le jeu pour l'instant. Il sait qu'il a 2 ans pour apprendre. Normalement, auprès de Lewis Hamilton, il sait là où est son intérêt. Donc c'est quelqu'un qui est intelligent.
Oui, on l'a vu, hein, très très régulièrement, effectivement, être fin finalement, dans son approche, à la fois en tant que pilote et à la fois humainement. C'est un garçon qui, pour moi, voilà, a fait une très très bonne, bonne impression sur ce début de saison, sur les essais, quand on a compris que la W13 allait être vraiment en difficulté. Et finalement, il ne s'est pas du tout démobilisé. Et dans ce contexte difficile, je trouve qu'il a assuré. Voilà pourquoi je l'ai désigné comme mon top, mon premier top, puisque j'en aurai deux à vous proposer. Toi, Stéphane, ton top, il n'est pas gris, il est rouge.
Il est rouge, il n'est pas très original. C'est Ferrari, retour au sommet. On l'a dit la semaine dernière, meilleure saison depuis 2018 et 2004. Il y avait eu victoire, doublé ces années-là. Donc, ils ont commencé par une première place, une deuxième place. Donc, c'est bien parti. Mais ce qui me plaît plus que ça, chez Ferrari, c'est vraiment l'approche. Ils ont tout mis dans l'ordre. Maintenant, les pit stops, tout est bien réglé, les stratégies, etc. Et on pense vraiment à l'avenir de façon raisonnée. Je prends l'exemple de ce que vient de dire Mattia Binotto, donc le directeur d'équipe, qui est aussi un petit peu le directeur technique occulte parce qu'il l'était avant et qui suit ça de près. C'est qu'il a dit, on va pas mettre n'importe quoi en termes d'évolution sur la voiture, on va pas se précipiter et on va certainement attendre les courses européennes pour mettre des pièces sur la voiture. Donc on parle d'Imola qui sera le 4e Grand Prix, de Montmelo qui sera le 6e Grand Prix. Pourquoi ? Parce que il dit une chose très simple, c'est que il y aura peut-être pas de pièces suffisantes disponibles pour équiper les deux voitures en même temps. Et ça, c'est ça, vraiment, c'est sa priorité. Alors, à Melbourne, il a dit qu'il n'y aura pas d'évolution majeure. C'est ensuite à Imola qu'on va commencer à avoir des choses, de sorte d'avoir deux voitures absolument identiques sur cette course, ce qui est très important. Parce que la complication aussi, c'est qu'il faut plusieurs jeux de pièces. En fait, il en faut quatre. Globalement, si un pilote fait de la casse, on va chercher des pièces de rechange. Si le deuxième pilote casse la même pièce, il faut que la deuxième voiture roule, quoi qu'il arrive, dans la même configuration pour emmagasiner encore des datas, pour apprendre. Et là, chez Ferrari, on sait qu'on est bien parti. Et maintenant, on ne va pas se précipiter. Pour une autre raison aussi, a dit Binotto, c'est qu'il y a un facteur très important qui joue, c'est le budget cap, qui est de 123 millions d'euros cette année. Et il a dit, nous, on ne va pas dépenser notre argent, tout notre argent, en début de saison, sur des nouvelles pièces, à essayer de mettre un petit peu frénétiquement, on va dire, des pièces sur la voiture pour impressionner Red Bull. C'est pas ça la démarche. Et je trouve que ça change vraiment par rapport aux années passées où ils se cherchaient. Ils apportaient des évolutions parfois qui étaient un petit peu hasardeuse, qui fonctionnait pas du tout, qui était testée le vendredi, qui n'était pas validée. On n'est pas là-dedans. Franchement, c'est assez encourageant.
Il n'y a pas d'emballement, en fait. C'est
du
ça.
Tout.
Ils se retrouvent dans une situation presque inespérée du côté de la Scuderia et on les sent finalement sereins, alors qu'on aurait pu, courir le risque de s'emballer.
Le tempérament latin, un petit peu, mais c'est pas ça. Là, ils sont en mode Red Bull.
Il
ils
est
sont
très
en
calme,
mode...
Mattia Binotto. Hein.
Mercedes, tout à fait.
Donc, bon, c'est intéressant en tout cas de voir. Il y a aussi, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que on doit pouvoir toujours équiper les deux autos de la même manière. Effectivement, il y a cette idée que pour comparer les datas, il faut que les autos soient à égalité. Je pense aussi que pour la paix dans le garage Ferrari, il faut aussi que les deux pilotes aient le même matériel. Parce que si on commence à donner à l'un ou à l'autre, on sait que c'est peut-être l'étincelle qui va briser ce bel équilibre qu'il y a en ce moment entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, et on se doute que cet équilibre il est extrêmement précaire.
Oui, tout à fait, et tu as complètement raison de le signaler, Gilles, là-dessus aussi, ça faut être magnanime, parce que Leclerc commence à prendre le pas sur Sainz, et il faut s'acheter la paix des ménages. Alors, pour juste une petite précision, en termes de pièces de rechange à fabriquer tout au long de la saison, Mercedes avait donné le chiffre en début de saison, il fabrique 30 000 pièces dans l'année, pour faire tourner les deux voitures sur les Grands Prix. Donc, il faut gérer ça. C'est quand même assez tendu comme planning. Donc, là-dessus, Ferrari, ils ont dit, on va avoir toute l'année cette idée en tête de...
Le budget cap, bien, hein, aussi, tu l'as évoqué, voilà, ça va changer beaucoup
répartir,
de choses.
Voilà, c'est ça, les forces. Et puis, commencer aussi à travailler sur les enseignements de cette année. Et qu'est-ce qu'il faudra faire, partir dans quelle direction pour la voiture de 2023. Mais comme le moteur va aussi assez bien, ils ont résolu une grande partie du marsouinage. Ça ne pose pas trop de problèmes. L'usure des pneus, on a vu, ils sont très bien. Donc là, tous les feux sont au vert chez les rouges.
Exactement. Alors, on verra aussi... Je termine là-dessus, hein, sur le budget cap. Il y a peut-être des équipes qui ont aussi déjà dépensé une grosse partie de leur enveloppe et qui vont être un petit peu empêchées dans leur volonté de développement.
On va en parler
un peu plus tard dans la saison. On risque d'avoir à un moment forcément des équipes qui stagnent, d'autres qui avancent plus vite. C'est le cas toujours, hein, depuis toujours en Formule 1, mais peut-être un petit peu plus maintenant avec cette limitation des budgets. Moi, mon deuxième top, le troisième top qu'on vous propose, bah, c'est As, en fait, hein, parce que cette équipe qui était moribonde, hein, je vous redonne les chiffres des 5 saisons précédentes pour l'équipe de Jean As. En 2017, 8e du classement des constructeurs avec 47 points. En 2018, 5e des constructeurs. Là, c'était une belle progression avec 93 points. C'est retombé ensuite 2019. 9e, avant-dernier du championnat constructeur, 28 points. 2020, 9e, 3 petits points. Et l'année dernière, dernier, pas un seul point pour l'équipe américaine qui avait pris le pari l'année dernière. C'était osé, pour pas dire, un mot un peu plus fleuri, de pas faire du tout de développement sur la voiture de 2021. Alors, est-ce que c'était un choix ou parce qu'il n'y avait simplement pas le budget pour le faire? En tout cas, on avait expliqué que on ne développait pas la voiture de 2021 pour garder vraiment toutes les ressources pour 2022. Il y a eu la bonne surprise d'avoir un moteur Ferrari absolument magnifique. Et puis derrière, il y a une auto qui, quand même, sans être une copie, parce que ça, on va l'évoquer un petit peu, sans être une copie de la Ferrari, qui est très particulière au niveau de son aéro, a fonctionné redoutablement bien. Alors que ça a débuté quand même, 2022 débute comme un cauchemar, hein, pour As. On rappelle la guerre en Ukraine. Du coup, ça commence à sentir le roussi pour tout ce qui est russe. Ça veut dire qu'on enlève le sponsor et qu'avec le sponsor, on enlève aussi le fils
le budget,
du sponsor,
voilà, c'est
ça. Nicolas Mazepin qui dégage. Gunther Steiner prend son téléphone. Qui je peux appeler? Ça s'est un peu fait comme ça. Bah, je vais appeler Kevin Magnussen, l'ancien pilote, qui décroche, qui dit bah ouais, je plaque tous mes engagements, y compris ceux auprès de Peugeot en endurance, et j'arrive. Et ça fait des points, ça fait 5e au premier Grand Prix, ça fait 9e à Jeddah, en Arabie Saoudite. Quelque part, c'est une histoire absolument incroyable pour As. Et on a le sentiment que ça peut encore aller plus loin.
Ça peut aller plus loin parce que cette voiture, elle est faite avec beaucoup de pièces mutualisées de Ferrari. Ils achètent en fait tout ce qu'ils peuvent chez Ferrari. Et cette voiture, elle est designée chez Ferrari dans un bâtiment, nous dit-on, à part. Hein, on nous l'a juré.
Hein. En tout cas, il est à Maranello, le bâtiment. Donc, si vous voyez ce qu'on veut.
C'est ça. On vous donne un indice. Et c'est Simone Resta qui le fait, un designer de longue date de chez Ferrari. Donc, ils savent comment ils travaillent. On dirait qu'aussi la soufflerie est partagée. Ça veut dire que ce qui sert pour le développement de Ferrari peut servir aussi chez As. Donc, ouais. Alors, on parlait du budget cap. Là-dessus, il se repose aussi peut-être sur Ferrari en termes de développement, en termes de coûts de développement. Et il y a des évolutions qui arriveront et qui fonctionneront peut-être très bien grâce directement à Ferrari, à des pièces, on dit, qui sont partagées, ce qui est autorisé par règlement. Donc, ils vont en profiter.
Là, ils savent qu'ils sont surveilleux, donc voilà. Ils ne joueront pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'on avait eu la Mercedes Rose il y a 2 ans, hein, Racing Point, qui avait copier la Mercedes de la saison précédente. Alors, d'ici à dire qu'on a une Ferrari blanche, non, parce que alors j'ai regardé quand même attentivement. Allez. En aéro, elle est vraiment très, 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 très différente. Mais tu le disais, c'est Simone Resta qui est chargé de cette voiture. Simone Resta, il a été à la Scuderia Ferrari de 2001 à 2019 avec une petite année chez Alfa Romeo. Bon, il sait comment ça marche.
Ouais, il est envoyé spécial chez Alfa Romeo par Ferrari, puis ils l'ont demandé de revenir.
Et puis de repartir chez As cette semaine.
La situation est un petit peu la même finalement que Red Bull et AlphaTauri, oui. Des écuries sœurs qui développent des concepts différents. Et puis chez Red Bull, on regarde quand même ce qui se passe chez AlphaTauri pour voir s'il n'y a pas un concept
faut être idiot.
Intéressant.
Faudra voilà. être idiot
bien sûr,
naïf
bien sûr,
pour
fait.
Croire que autour d'un café, on n'échange pas. Ouais, on a essayé cette solution, ça marche
c'est
pas.
Clair.
Ça, c'est intéressant.
Bon.
Hop, voilà.
En tous les cas, ça fait une écurie compétitive de plus. Je trouve que c'est bien. C'est dans l'esprit du règlement. Ça va jusqu'au bout de ce qui est possible, tout en gardant l'identité de l'écurie. Bon, c'était le but de Jean As au départ. L'écurie est arrivée en 2016, je crois. En
2017, il me semble.
2017.
Il me semble que c'est la première année, justement.
Et là, maintenant, ça y est, ça donne sa pleine mesure. Et surtout, c'est qu'il n'a pas reculé devant la perte de son sponsor dont il s'est débarrassé. Il a dit, bon, bah, je vais mettre la main à la poche. Et puis, on verra ce qui se passe. On essaiera de trouver d'autres sponsors.
Et ça, c'est bien qu'il soit récompensé
voilà.
quand même.
Tout à fait.
Exactement. Donc, ça, c'était nos trois tops. George Russell, Ferrari et As. On va passer à nos trois flops maintenant, ce qui a moins bien marché. Et on va commencer par cette équipe Mercedes et cette auto, la W13, née sous une mauvaise étoile, Stéphane.
Oui, t'as raison, bah, c'est tout à fait ça, malheureusement, je dirais. On est revenu au gris, normalement aux flèches d'argent qui étaient fabuleuses depuis 2014. Et puis là, on est redescendu au troisième rang. Alors, la préoccupation, vraiment, moi, là où je trouve que c'est vraiment délicat, c'est que Hamilton et Russell sont même derrière les deuxièmes pilotes de Red Bull et Ferrari. Je trouve que si Hamilton et Russell se battaient pour les troisièmes places régulièrement, déjà, la dégringolade serait un petit peu moins violente. Mais là, c'est vraiment l'urgence. Ils perdent beaucoup de points au championnat pilote, au championnat constructeur. On l'a dit la semaine dernière qu'ils ont quasiment croqué tout leur joker. Mais alors, Wolf dit que ça lui rappelle vraiment la saison 2013, quand c'est il ça. Est arrivé, sa première saison, l'état de l'écurie qu'il a trouvé en arrivant.
C'était la dernière saison avant le début de l'ère hybride, où là, vraiment, Mercedes a débuté son règne.
Et Wolf disait, bah, là, à cette époque-là, en fait, on avait du mal à lutter contre la vitesse de Red Bull et probablement aussi celle de Mercedes. Donc, on a fait un pas 9 ans en arrière. De Ferrari, pardon, donc de Red Bull et de Ferrari. On en est là. Et ce qui est un petit peu délicat, c'est cette histoire de marsouinage. Russell l'a dit, si on résout le marsouinage, on se débarrassera de 99% de nos problèmes. C'est clair, sauf que il y a un ingénieur de Mercedes qui a confié, sous le couvert de l'anonymat, que ils ne savent pas comment se déclenche ce phénomène de marsouinage sous la voiture. Alors, Jacques Éclart, qu'on avait eu en début de saison, nous avait expliqué, donc l'ancien ingénieur de Prost, de Honda, de plusieurs grandes écuries, de Sauber, nous a expliqué que c'est un conflit de fines couches d'air qui passent sous la voiture, entre le sol et le fond plat, le plancher, et qui déstabilise en fait le diffuseur, donc la voiture. Et ils ne savent pas le reproduire parce que ça ne se reproduit pas en fait en soufflerie, c'est ça le souci. Et ils ne savent pas comment l'appréhender, franchement. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a une autre information qui a transpiré, c'est que le moteur n'est pas tant problématique que ça. Il coûterait 1 à 2 dixièmes par tour pour l'instant. Donc, il y a un petit déficit de ce point de vue-là, pas au-delà.
Je suis un petit peu surpris de cette estimation.
Il y a 5 dixièmes à trouver, mais le plus gros, c'est vraiment sous la voiture.
Ah, mais clairement, c'est le marsouinage qui pose le plus problème, parce qu'on le voit bien, les pilotes, ils sont absolument secoués comme des pruniers pendant toute la course, et tu peux rien faire. Tu peux rien faire avec une voiture qui, comme ça, bat le tempo sur la piste. C'est complètement fou. J'ai pas le sentiment que ce soit insoluble. C'est vraiment qu'une question de temps. On l'a dit la semaine dernière, c'est une question de temps avant que Mercedes trouve la solution. Combien on aura perdu de temps, combien on aura perdu de points au moment où cette énorme équipe Mercedes aura trouvé la solution, en restant toujours pareil dans le cap budgétaire.
Et c'est ça le problème, parce que là, ils vont mettre des pièces sur la voiture sans savoir si elle fonctionne. Ça sera la piste qui donnera la vérité.
Mais n'empêche que ces pièces, il a fallu les fabriquer.
Il a fallu les fabriquer.
Et elles coûtent de l'argent.
Tu mobilises des gens pour ça, et si ça ne fonctionne pas, c'est du temps, c'est de l'argent perdu. Là, c'est du concret, vraiment. Et ça se retrouvera peut-être en fin de saison où ils seront peut-être ric-rac. Bon, et il y a un autre souci, mais ça, c'est le souci de toutes les écuries. Wolf avait dit avant le deuxième Grand Prix de la saison, notre voiture est probablement, avec la Red Bull, celle qui est plus en surpoids par rapport au poids minimal, au poids plancher qu'il faut atteindre. C'est 798 kg en Formule 1, et ils sont probablement 10 kg au-dessus cette limite pour l'instant. Donc il y a des écuries qui ont enlevé de la peinture, qui ont fait des choses, qui ont gratté. On verra bien si eux aussi grattent la carrosserie pour enlever la peinture, comme on a fait chez McLaren et ailleurs.
Peut-être raser les pilotes.
Ouais, bah alors, justement.
Moi, c'est ce que je fais depuis longtemps, j'ai beaucoup gagné.
C'est le point positif du règlement depuis 2019. On ne demande pas aux pilotes de se mettre à la diète. C'est 80 kilos maintenant, équipement, pilote, tout compris, même le baquet. Donc, s'il y a du poids à trouver, c'est ailleurs. Bon. Mais il y a plusieurs chantiers ouverts chez Mercedes. Là, ils ne vont pas en voir le bout tout de suite, je pense.
Non, c'est clair, ça risque d'être compliqué. Ou bien, peut-être que c'est juste un détail. Alors évidemment, ça paraît ridicule de dire ça, mais honnêtement, je ne serais pas surpris, moi, qu'on débute un week-end un jour et que d'un seul coup, la Mercedes se mette à fonctionner et qu'elle redevienne l'arme redoutable qu'elle a été depuis 7 ans. Pour moi, c'est vraiment qu'une question de temps. Je ne suis pas du tout inquiet pour Mercedes. C'est, Je trouve ça même très intéressant finalement qu'on en soit aujourd'hui confronté à un problème tout simplement parce qu'on ne peut pas reproduire en soufflerie, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui se passe sur la piste. Parce que si vous voulez reproduire en soufflerie, ça veut dire qu'il faudrait faire frotter les voitures sur le tapis. En soufflerie, les voitures restent statiques et c'est un tapis qui tourne en dessous. Et si on fait frotter la voiture sur le tapis en soufflerie, on explose le tapis en quelques secondes et ça coûte horriblement cher. Donc on ne peut pas le faire. Donc la seule vérité, finalement, c'est celle de la piste. Il n'y a plus, de simulateurs qui tiennent. On est un petit peu en train de revenir à la Formule 1 qu'on avait connue avant tous ces développements digitaux. Et je trouve ça plutôt pas mal. Alors là, ça tombe sur Mercedes. C'est peut-être d'autant plus intéressant parce que ça a remis vraiment la hiérarchie à plat, mais je trouve ça plutôt une bonne nouvelle et je sais pas ce que tu en penses, mais c'est une question de temps.
Alors c'est une question de temps. Y a un autre point quand même, parce que là on parle du diagnostic de la soufflerie qui donne déjà des indications pour la piste, mais Mercedes a dit à Jeddah, on s'attendait à avoir moins de problèmes de marsouinage parce que la piste était plus lisse. Eh bien, on s'est trompé complètement. Donc, en fait, là, ils ne savent pas du tout où ils habitent. Là. C'est, pour résumer ça comme ça, un petit peu familièrement, c'est seulement les tests le vendredi, le samedi, ce qui se passe, le dimanche aussi, en fonction de la location d'essence dans le réservoir, où on rencontre plus ou moins ce problème, qui leur dira s'ils sont dans la bonne direction de travail.
Alors, parmi les flops, on voulait parler aussi d'Aston Martin, avant-dernier du classement, avec 12 points pour meilleur résultat, une 12e place. Alors, je vais te piquer ta formule parce que je l'ai trouvée excellente, Stéphane. On est plus proche de Martin que d'Aston du côté des hommes de Lawrence Stroll. Bon, alors là, il faut dire aussi que ça a été compliqué, hein, le début de saison, avec un Sébastien Vettel covidé qui a manqué les deux premiers Grands Prix, remplacé quasiment au pied levé par Nico Hülkenberg, qui a fait du bon travail, mais pas suffisamment pour aller chercher des points. Il faut rappeler que avant cet épisode de Covid de Sébastien Vettel, il y avait eu la première très très grosse mauvaise nouvelle pour Aston Martin, c'est le départ de Otmar Szafnauer, le patron de l'équipe, en tout cas le team principal, qui est parti chez Alpine. Et ça, c'est quand même un maillon déterminant dans une équipe qui a pris la direction de la concurrence. Il a été remplacé par Mike Krack désigné au mois de janvier. Quand on sait l'importance de cette intersaison, des changements réglementaires, ça a vraiment mis à l'arrêt, je pense, pendant un long moment, Aston Martin. Maintenant, est-ce que Mike Krack a les épaules pour relancer cette structure qui est en pleine croissance, hein. Elle vient de démarrer.
Si tu écoutes Gerhard Berger, l'ancien pilote de Formule 1, la réponse est non, clairement, parce qu'il l'a vu.
Moi, je vais pas jusque-là, mais
en DTM, on espère que Mike Krack le fera mentir là-dessus. Mais tu parlais d'Otmar Szafnauer qui est parti, mais en fait, il sentait qu'il ne servait plus à rien. C'est surtout ça, parce que Lawrence Stroll, donc le père de Lance Stroll, du pilote, est assez autoritaire, prend des décisions. Il y a des pilotes qui ont observé ça de près, ils ont dit il a un peu des méthodes de bulldozer et ça passe pas bien et pour l'instant c'est un four. Alors je dirais que j'en viendrai aussi sur l'absence de Vettel, c'est quand même dommageable, quelqu'un qui est payé des millions d'euros, qui doit faire attention quand même à ce genre de choses parce que c'est extrêmement pénalisant. Alors on sait qu'on peut l'attraper de façon complètement fortuite, mais là...
Si ça se trouve la semaine prochaine, on l'a fait par Zoom. Puis, voilà.
Tout à fait. Donc, C'est quand même assez... Bon, c'est bête, il y a 7 ou 8 pilotes qui ont eu le Covid. Lui-même, Hamilton, l'a eu en fin de saison, après son titre. Donc, c'était moins impactant. Mais là-dessus, c'est mauvais timing sur toute la ligne.
Ouais, non, clairement, ça s'est un petit peu acharné hein, sur cette équipe. Alors maintenant, la question, c'est Sébastien Vettel revient aux affaires en Australie. À partir de ce week-end, il sera là. Où est-ce qu'il en est? Parce que finalement, on est toujours un petit peu dans l'inconnu face à Sébastien Vettel, qui était parti quand même de la Scuderia avec une réputation quand même passablement écornée. L'année dernière, il avait fait des belles choses. Il était allé chercher un podium en Azerbaïdjan avec un peu de réussite. Mais bon, il faut être là pour récolter finalement les bons résultats quand il se présente. Dans quel état d'esprit est l'ancien quadruple champion du monde? Et puis il y a Lance Stroll aussi, qui n'a pas montré énormément de capacité là, avec cette nouvelle voiture, qu'on dit de plus en plus désagréable avec les journalistes qui sont sur place. Je pense que être le patron d'une équipe quand on ne se sent pas tout à fait légitime derrière le volant, ça doit être très très compliqué à gérer. Bref, cette équipe, pour moi, me paraît dans l'ornière.
Il y a une vraie question de motivation de toute façon chez Lance Stroll, qui a toujours paru un petit peu blasé, mais ça faisait partie de son personnage. C'est assez marrant, moi je trouve qu'il s'est quand même calmé en piste. Il est à la limite du coup de roue, il est un petit peu sanguin.
Même été lui-même victime d'une attaque à Jeddah. C'est le monde à l'envers, hein. Tu vois, chez Aston Martin, il n'y a plus rien qui va.
Mais il s'est fait taxer par Hülkenberg qui arrivait là.
Ça fait des ordres.
Là-dessus, il y a quand même besoin de faire une grosse remise en question. Mais si le père et le fils ne veulent pas voir la réalité en face, c'est vrai qu'ils vont dans le mur. Alors que pour moi, c'est une écurie qui va se structurer, qui investit, qui a des bonnes bases pour travailler. Simplement, Lawrence Stroll, il faudra peut-être un moment qu'il voit que c'est nécessaire de prendre du recul, et il verra tout ce qu'il a perdu avec la gestion d'Otmar Szafnauer, qui était un administratif, qui avait un regard technique vraiment sur les gens.
Quelqu'un qui connaît la F1 en profondeur,
voilà,
hein,
depuis longtemps. Qui avait recruté quasiment tout le monde dans l'écurie. Donc après, il faut connaître le milieu, il faut recruter des gens, on le rappelle.
Savoir nager dans ce...
Voilà, c'est 6 mois pour le faire venir, parce que il y a des secrets qu'il ne faut pas éventer, donc il ne peut pas passer d'une écurie à une autre du jour au lendemain. Bref, là-dessus, ils se sont achetés beaucoup de problèmes, c'est vrai. Je ne sais pas ce que va en penser Vettel quand il va voir la situation à Melbourne. Apparemment, il est sur un contrat longue durée, mais ça sent peut-être la retraite.
Non,
à ce rythme-là.
Ouais, on verra bien. Et puis, il y a un dernier point. Tu l'avais rapidement évoqué hein, sur un de nos podcasts de début de saison. Il y avait cette idée aussi que Aston Martin voulait construire son propre moteur. Et puis, d'un seul coup, hop, Toto Wolff dit, c'est quoi ces histoires? Vous nous faites quoi? Et donc ça, c'est pareil. Ça, je trouve que ça témoigne un petit peu d'une équipe qui ne sait pas très très bien où aller.
C'est une grosse ambition. Alors, Toto Wolff, pas d'accord, je comprends bien.
Il vient de se faire piller
par Red Bull, il va se faire piller une deuxième fois. Moi, personnellement, j'aurais été le boss vraiment de Daimler. J'aurais dit, ça n'arrivera pas une deuxième fois. On déplace l'unité moteur de Brixworth en Angleterre, en Allemagne, point barre, comme ça n'arrivera plus. C'est clair, mais là, s'ils se font repiller par Aston Martin, c'est vrai que ça sera la démonstration que c'est la seule solution possible. Bon, après, ça paraît très ambitieux, c'est vrai. Dans quelques temps, Red Bull et McLaren seront peut-être associés à des marques du groupe Volkswagen qui va, dit-on, s'engager en Formule 1.
Ça,
apparemment,
c'est un serpent de mer
aussi,
hein.
Voilà, c'est ça, avec Porsche et Audi, l'annonce serait imminente. Donc, face à ça, si tu veux aussi, tu dois réagir et tu dois avoir ton moteur d'usine. Il n'y a pas d'histoire.
Exactement. Donc, on verra comment ça va évoluer pour Aston Martin. Mais pour le moment, Aston Martin est au point mort. Et on verra ce qui va se passer avec Sébastien Vettel en Australie. Le dernier flop qu'on voulait évoquer avec vous, c'est celui de Mick Schumacher, qui peine un petit peu. On a évoqué le retour de Kevin Magnussen, qui a littéralement marché sur l'eau, alors que Mick Schumacher, lui, il a un peu bu la tasse.
Ben en fait, l'année dernière, on avait parlé, je trouvais que Mick Schumacher ne se surpassait pas en course. Je t'avais dit, quand il commence 16e, il termine 16e. C'était un petit peu ça le souci. C'est pas Mazepin qui pouvait lui faire de l'ombre. Et là, on lui met quand même un taulier dans les roues. Magnussen qui arrive, qui a quelques kilomètres de roulage en test hivernaux, et puis qui le taxe, mais carrément. Alors, j'ai regardé juste à Bahreïn, en Q1, c'est 4 dixièmes d'écart qu'il lui met. C'est 5 dixièmes en Q2. Donc ça fait beaucoup. Rebelote en Arabie Saoudite, 3 dixièmes en Q1, puis 4 dixièmes en Q2. Donc là, il y a quelque chose il a un plafond de verre pour moi, en fait, Mick Schumacher, tout simplement. Il y avait 3 dixièmes aussi en rythme de course à Bahreïn. Alors évidemment, on n'a pas vu ce que ça donnait en Arabie Saoudite, malheureusement pour Mick. Il était quand même là sur le muret des stands pour assister à la course après son gros crash. Mais là, ça commence à devenir un petit peu difficile pour lui, parce que je trouve qu'il surpilote, tout simplement. Et c'est la cause de sa sortie de piste.
Tout à fait. Elle en témoigne. Le problème pour Mick Schumacher, c'est que, alors évidemment, il est arrivé avec l'aura du nom Schumacher, avec un coéquipier qui lui donnait à la fois un confort, c'est-à-dire qu'il allait plus vite que Nikita Mazepin, mais finalement sans véritablement forcer, sans avoir à sortir de sa zone de confort. Il est obligé cette saison de sortir de sa zone de confort, et que souvent ça se traduit quand on est un jeune pilote par des sorties de piste, et c'est ce qui lui arrive maintenant. On a le sentiment que 2022, c'est véritablement la première saison en Formule 1 pour Mick Schumacher, alors que c'est potentiellement sa dernière. Et c'est ça un petit peu le paradoxe et le risque pour Mick Schumacher, qui doit absolument maintenant, voilà, c'est ça y est, là, c'est dans les semaines, les mois qui viennent, il doit se faire un prénom s'il veut rester en Formule 1. Sinon, ça aura été une comète, le fils de Michael qui a fait de la Formule 1, qui est passé. Parce qu'en plus, pendant ce temps-là, chez Ferrari, où il est bien vu, y a quand même des contrats qui sont en cours, et il n'y a pas énormément de portes ouvertes, Stéphane.
Oui, alors, je reviens juste sur l'histoire des crashs. L'an dernier, il y avait une télévision qui avait établi en fait le coût total de ce que chaque pilote avait engagé à force d'accident par écurie. Et Mick Schumacher arrivait en tête, malheureusement, avec 4,2 millions de dégâts, de casses. Sur l'ensemble de la saison.
On s'était beaucoup focalisé en début de saison sur Nikita Mazepin. Hein.
Oui,
on se souvient,
tout à
on
fait.
Avait un peu chambré le russe, et finalement, il a été dépassé dans cet exercice.
Lui, il coûte cher, et son crash à Jeddah coûte 900 000 euros quand même. Alors, c'est un souci, à tel point qu'on parlerait d'un aménagement d'une petite rallonge budgétaire pour Haas pour tenir la saison, parce que déjà, il commence à taper dans le budget sévèrement. Mais on l'a dit, c'est peut-être pas en budget de développement qu'ils vont avoir le plus de soucis, parce que de ce côté-là, c'est peut-être plus Ferrari qu'assure. Bon, mais effectivement, la question, c'est maintenant quel avenir pour lui. Il va falloir qu'il fasse des grosses qualifs. Alors, c'était le cas quand même, il était en Q2. Cette année,
Mais il a fait
Q2 l'année dernière, alors que
il est en Q2 avec une voiture qui est capable
Q3.
De faire cinquième.
Oui, tout à fait, c'est ça le problème. Et c'est là où on voit vraiment la différence. Et tu le dis, là, il est en période d'apprentissage. L'année dernière, je t'avais dit, il se comportait un petit peu, j'avais l'impression d'entendre un pilote d'endurance. C'est-à-dire, il voulait voir les drapeaux à damier.
Contre les pilotes d'endurance.
emmagasiner l'expérience. C'était ça, pour lui, le plus important. Avant de passer à autre chose, Steiner lui avait dit, là, maintenant, cette année 2022, c'est pour avoir des résultats. Bon, et quand on regarde bien ce qui se passe en termes de contrat, c'est assez bouché. Il est pilote de réserve chez Alfa Romeo. Bottas est sous contrat chez Alfa jusqu'en 2025 inclus. Guanyu Zhou a été engagé parce qu'il apporte énormément d'argent, je crois que c'est 30 millions d'euros hein, si je ne me trompe pas. Donc il a un contrat que pour cette année, mais j'imagine que ça va continuer. Donc l'ami qui est un petit peu enfermé chez Haas, et la Scuderia nous dit quand même que c'est un pilote de la Scuderia Ferrari Academy, qu'il a vocation un jour à piloter pour les rouges. Ça n'en prend pas le chemin. Sainz est sous contrat jusqu'en 2022. Il va probablement être prolongé, je pense, de 2 ans. Et pour Charles Leclerc, Ferrari pousse pour le prolonger 2 ans de plus, donc jusqu'en 2026. Ça veut dire que vraiment, à un moment donné, Mick va devoir produire des résultats pour se trouver une place ailleurs que dans la galaxie Ferrari. Et ça va être ça son souci, vraiment.
Ou alors rester chez Ferrari et devenir un pilote d'endurance, puisqu'on rappelle que Ferrari
mais pourquoi
débarquer
pas
aux 24 heures du Mans. Ce qui n'est pas infamant, hein,
évidemment. Non, mais il faut savoir faire le deuil de ça, et on fait des très belles carrières. Quand on gagne les 24 heures du Mans, on a réussi sa carrière.
Si tu arrives à faire ça avec Ferrari, c'est
génial. Donc il faut réfléchir. Alors maintenant, il est jeune, il a d'autres rêves quand même, et il peut espérer encore apprendre l'année prochaine. Mais
l'heure est venue là maintenant. Là, ça y est,
c'est clair. C'est clair que moi je te parle de plafond de verre parce que je ne vois pas d'autre image. Et c'est tout à fait ça, surtout par rapport à Magnussen.
On va enchaîner avec les fous du volant. On va évoquer cette fois les changements de 2022, savoir si après ces deux premiers Grands Prix, la Formule 1 va dans la bonne direction ou pas. Le passage au F1, au effet de sol qui a, on l'a dit, sérieusement rebattu les cartes de la hiérarchie, la gestion des zones de DRS hein, qui ont plutôt tendance à se multiplier, et qui a tout de même offert deux très très jolis duels en fin de course hein, sur les deux premiers Grands Prix de la saison. Stéphane, on va commencer par cette nouvelle formule sur la direction de course, hein, avec donc deux directeurs de course qui ont succédé à Michael Massi, qui a fait les frais de la gestion de l'année dernière. C'était donc Nils Wittig qui était entré en fonction pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Eduardo Freitas lui avait succédé en Arabie Saoudite, et les deux vont comme ça alterner à chaque Grand Prix. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ces deux premiers Grands Prix en termes de direction de course ?
Je trouve que la FIA a tiré les bons enseignements de ce qui s'était passé, et pas seulement à Abu Dhabi l'année dernière sur la finale, mais sur toute la saison. Et ils ont réparti les rôles parce qu'ils ont estimé que Massi, en fait, occupait des fonctions de trois personnes. Globalement, la direction de course, la sécurité, la politique à côté.
Ah, tu pouvais même rajouter standardiste, hein, parce que pendant un moment, c'était quand même devenu un peu n'importe quoi.
T'as raison, Gilles, j'aime bien l'image. C'était malheureusement ça. Et en fait, ils ont décidé un roulement avec ces deux personnes, Wittich et Freitas, qui sont alternativement échangent le rôle de numéro 1 et numéro 2, puisqu'il y en a un qui est directeur de course, l'autre est responsable de la sécurité. Et inversement, donc ils sont toujours en permanence sur les circuits, sauf qu'ils ne sont pas dans l'œil du cyclone quand il y a des polémiques, quand il y a des choses qui sont un petit peu des situations compliquées à gérer, ce qui peut être aussi épuisant pour une seule personne sur toute une saison, quand tu as Toto Wolff et Christian Horner sur le dos. C'est ça, on perd son latin. Donc là-dessus, c'est ce qui avait vraiment coûté vraiment sa lucidité, je dirais, à Massi dans les derniers instants. Voilà. Et moi, ce que j'ai apprécié, justement, c'est qu'ils ont posé les bases tout de suite. On fait la course entre deux lignes blanches, point barre. Et si on les dépasse, il y a sanction. On l'a vu tout de suite sur le premier Grand Prix. Il y a eu un chrono d'annulé parce que Guanyu Zhou était sorti en qualif. En course, il y a eu 4 annulations de chrono assez symboliques. Hein. Mais ça, c'était posé. Et puis, sur le deuxième Grand Prix, Verstappen se plaindre de Leclerc pour essayer de mettre la pression. Et ses lumières ne s'affichent pas à l'arrière de l'aileron quand il récupère de l'énergie et il coupe la ligne blanche de l'entrée des stands, etc. etc. Eh bien, avant, il y aurait peut-être eu un retour d'informations. La direction de course aurait peut-être demandé à Ferrari de calmer son pilote, d'ajuster son comportement. Il n'en a été rien. Ouais. Vraiment, ils n'ont pas répondu. Donc, Verstappen s'est plaint un petit peu dans le vide. Mmh. Et on a compris que là, c'était plus la peine. On avait changé d'époque. Je trouve qu'ils se sont fait respecter.
Oui, je pense qu'on a isolé, en fait, le directeur de course de l'environnement pour qu'il puisse agir, finalement, un petit peu, tu vois, comme un pilote dans un cockpit d'avion. Avant, la porte était ouverte. Bon, pour des raisons de sécurité et un peu dramatiques, on a fermé cette porte. Donc, ça veut dire qu'il est là, dans un environnement clos où il peut, effectivement, réfléchir de manière beaucoup plus lucide. Je reste quand même un petit peu sur ma faim et un petit peu sur mes gardes, pour tout te dire, parce qu'il y a eu pour moi un moment où... Je me suis dit quand même, là, il y a encore du travail à faire à Jeddah. Neutralisation de course suite à la sortie de piste de Nicolas Latifi. Et on se retrouve avec c'est Sergio Pérez qui est en piste et Carlos Sainz passe au stand. Et les deux hommes, quand l'Espagnol ressort, sont vraiment très très proches l'un de l'autre. Sauf que sur les ralentis, on a très très vu de vie que Carlos Sainz avait franchi la ligne qui matérialise la sortie des stands avant que Sergio Pérez, lui qui était en piste, passe au même niveau. C'était évident, ça ne se joue pas à quelques centimètres, ça se joue vraiment.
Voilà, la priorité.
Ce qui veut dire que Carlos Sainz,
le virage suivant,
voilà, était officiellement.
Le retour en piste.
C'est ce qui veut dire que Carlos Sainz était officiellement troisième du Grand Prix. Or, avec l'élan, vu que Sergio Pérez était déjà en piste, bah, c'est lui qui occupait la troisième place au moment de la relance du Grand Prix. Et là, on a pris un temps incroyable. C'était incroyable l'inertie que ça a pris de la part de la direction de course pour finalement obliger Sergio Pérez à repasser derrière Carlos Sainz. Et finalement, alors là, du coup, maintenant, on n'a plus les échanges radio dans le sens direction de course équipe. Donc, on ne sait pas exactement à quel moment on leur a intimé l'ordre de rendre cette troisième place. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait après la relance, ce qui veut dire que Sergio Pérez est en troisième derrière Max Verstappen. On était sûr à 100% que Sergio Pérez n'allait pas attaquer Max Verstappen. D'ailleurs, il est même resté très très loin, ce qui a empêché évidemment Carlos Sainz d'attaquer ne serait-ce que Pérez, mais même Verstappen. Et ça a honnêtement un petit peu cassé la course de Carlos Sainz.
Son but, c'était de protéger effectivement Verstappen.
Exactement.
Alors ça, c'est agaçant parce que quand on voit des choses aussi évidentes, la sanction doit venir très très vite. Enfin là, c'était juste redonner une position. Ça doit arriver dans le tour même. Les pilotes ou les équipes n'ont pas à choisir le moment qu'elles le font, ni l'endroit. On avait déjà connu ça à Jeddah l'année dernière avec ce cirque qu'avait fait Verstappen qui était debout sur les freins et Hamilton qui
voulait pas le passer.
Qui ne voulait pas le passer avec cette histoire de ligne blanche, de détection du DRS pour la grande ligne droite suivante. Bref, eh bien, moi, je dis qu'effectivement, il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans et puis aménager les circuits. J'en avais déjà parlé. Il faut un long lap, quelque chose de précis comme on en a en MotoGP où on dit pour redonner une position, c'est à cet endroit-là et pas ailleurs. Ça doit d'abord être une sanction, c'est-à-dire qu'il faut faire plus de distance pour s'assurer qu'on perd une place. Et si on ne l'a pas perdu, il faut après se ranger vraiment. Il faut du concret très vite.
Je suis d'accord.
Et là, ça clarifie les choses parce qu'on laisse Red Bull, je dirais, faire de la stratégie là où ils doivent juste s'incliner sportivement. Mais je dirais qu'ils ne savent pas le faire, ce n'est pas une nouveauté.
Non, non, clairement. Donc moi, voilà, je dis attention à ça. On a encore du travail à faire. Alors, on a parlé de courses spectaculaires, disputées, et notamment grâce au DRS. Bah, figurez-vous qu'à Melbourne, le circuit comprend 4 zones de DRS. Enfin, là, ça devient complètement fou. Est-ce que ce DRS, avec les Formule 1 à effet de sol, a encore une raison de vivre? Est-ce qu'on n'est pas devenu DRS dépendant du côté de la Formule 1? Je me pose la question, Stéphane.
Alors, avant, ça ne marchait pas à Melbourne sur l'ancien tracé. Là, il a été
grandement modifié. Ça va aller beaucoup
modifié
plus vite.
Pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc, on verra l'impact. C'est vrai. Et quand je regardais les dessins du tracé des deux premiers Grands Prix de la saison, il pouvait même faire une quatrième zone de DRS sur le circuit de Bahreïn. Entre les virages 12 et 13, il y avait suffisamment de place. Bon, le reste, ça suffisait. Même une, on l'a vu, avant le virage numéro 4, entre le 3 et le 4, ils se sont passés et repassés. Et c'est, je trouve que c'était assez spectaculaire. Alors, la chose, moi, que je me dis, c'est que le DRS, surtout, il est interdit dans les deux premiers tours du Grand Prix. Eh bien, il faut l'interdire aussi dans les deux derniers tours. Et puis, c'est quelque chose, parce que finalement, c'est toujours celui qui l'utilise en dernier qui a la main et qui peut choisir. Ouais. Comme d'ailleurs, Verstappen l'a choisi, parce que il a temporisé sur le tour 45. Il avait décidé de passer au tour 46. Et je pense qu'il avait dans l'idée de s'échapper. Ça n'a pas tellement été le cas. Leclerc aurait pu répliquer après, mais il ne pouvait pas l'utiliser. Mais surtout, ce DRS, c'est quelque chose d'un petit peu automatique. Moi, je n'aime pas les choses automatiques. Il faudrait un petit peu plus de stratégie. Il faudrait un certain nombre d'activations. Et puis, pour moi, le DRS, ce n'est pas fait pour ça. C'est surtout fait pour doubler des retardataires. Quand on essaie de doubler, par exemple, une Alfa Romeo, on est une seconde plus rapide. C'est le coup de pouce qui permet de se débarrasser d'une voiture un petit peu dérangeante. On sait que ces voitures-là interfèrent après sur les écarts entre les voitures leaders en début de course. Par contre, une Red Bull ou une Ferrari ne doit pas pouvoir dépasser juste au DRS alors qu'elle n'est pas un millième plus rapide. Ça fait un petit peu bizarre. C'est là-dessus qu'il faut travailler.
Ça fait un peu gadget. Et quand tu vois ce qui s'est passé dans ces derniers tours entre Max Verstappen et Charles Leclerc, oui, c'était très disputé. Mais au final, alors il faut être très très malin. Hein, là, clairement, les pilotes doivent faire appel à d'autres qualités que simplement leur qualité de pilotage pour savoir finalement quand freiner. Mais quand tu vois Max Verstappen piler, allumer ses pneus pour faire que Charles Leclerc passe la ligne de DRS avant
lui.
Voilà, pour après pouvoir dépasser, tu te dis on est un petit peu en train de s'éloigner de la Formule 1. Et ça me faisait penser à ce que disait Ross Brawn, il ne faut pas confondre en matière de dépassement la quantité et la qualité. Et bien là, tu vois, je me suis dit, bah là, je suis désolé, on a de la quantité, certes. Est-ce que la qualité des dépassements, elle est vraiment au rendez-vous? Voilà, je pense qu'il va falloir un tout petit peu équilibrer ces histoires de DRS avec maintenant l'effet de sol qui permet quand même aux Formule 1 de se suivre d'un petit peu plus près. Il faut quand même qu'un dépassement, ça soit un petit peu dangereux, que ça soit un petit peu compliqué. Il faut voir où on place le curseur, mais on est vraiment là à un point où il va falloir arbitrer.
Oui, parce que cette ligne de détection, elle n'a pas été changée par rapport au Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021, alors qu'on aurait pu le faire. Là, ça y est, maintenant, ils ont compris qu'il faut la mettre ailleurs, au début de la ligne droite, pour éviter ce type de situation. Mais Leclerc a dit, le DRS, pour l'instant, nous, il faut, parce qu'on ne dépasse pas sans.
Oui.
Et on va voir des courses qui sont très ennuyeuses. Et Verstappen a dit la même chose. Il a dit, moi, sans DRS, j'aurais terminé deuxième. J'aurais jamais dépassé.
Bon. Mais oui, mais c'est donc, peut-être un peu ça, le problème.
Moi, je trouve que oui, parce que ça fait un petit peu bizarre quand même. Il y a un côté, effectivement, artificiel qu'il faut un petit peu gommer là-dessus. Il en faut un petit peu moins. On s'était beaucoup posé la question. 2019, 2020, il y a eu des grands prix comme ça où, bon, je pense à Portimao, les zones DRS étaient trop grandes. C'était ridicule, c'était risible. À quel point c'était facile de dépasser. Il ne faut pas que ce soit autant qu'à Sakhir ou à Jeddah.
En gros, pour résumer, la F1 va dans le bon sens, va dans la bonne direction.
Oui, quand même.
Mais il faut continuer.
En termes de management, de travailler. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, on nous a passé beaucoup moins aussi de communication radio. Sur les deux premières courses, on n'a pas besoin d'entendre des évidences vraiment ou des pilotes qui se plaignent sans arrêt. Mmh. On a envie de sentir un petit peu de la stratégie, de l'attaque et pas des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre. C'est pas l'essence même de la course et on leur demande de faire des choix, de prendre des risques. Mais on veut pas les entendre se plaindre. C'est pas le but. Quoi.
C'est pas dans l'air du temps, surtout par rapport au sport. Ce qu'on voulait aussi évoquer aujourd'hui dans Les Fous du Volant, c'est l'annonce avec fanfare, tambour et trompette du côté des États-Unis de l'arrivée de Las Vegas dans le calendrier de la Formule 1 en 2023. Un circuit d'un petit peu plus de 6 km avec une vitesse de pointe annoncée à plus de 340 km/h, une ligne droite sur le strip de Las Vegas de quasiment 2 km, une course qui aura lieu le samedi soir à 22h et qui donc avec le décalage horaire nous mettrait vers 7h du matin le dimanche en Europe, la semaine de Thanksgiving, donc on imagine que ça serait le samedi 25 novembre, Stéphane. Quand on voit la force avec laquelle on a annoncé cette arrivée du côté de l'organisation de la Formule 1, c'est le troisième Grand Prix qui aura lieu donc aux États-Unis durant cette saison 2023. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu trois Grands Prix dans la même saison en Formule 1.
Alors non, Gilles, parce que tu te souviens, en 2020, on avait eu trois Grands Prix en Italie pour les...
Ah oui, mais l'Italie, l'Italie, ça ne gêne pas, c'est pas grave.
Oui, c'est clair. Il y avait eu un précédent en 1982, c'était aux États-Unis. Il y avait eu Long Beach, Détroit et Las Vegas, des circuits urbains quand même. Mais moi, je me pose la question quand même, est-ce qu'on ne devient pas accro aux courses de nuit? On ne sait plus organiser que ça. On reste sur cinq courses de nuit.
Consécutivement.
Qatar, ouais. Voilà, c'est ça. Arabie Saoudite, Bahreïn.
Donc ça, c'était fin 2021.
Oui, tout à fait.
Et on a rattaqué
sur deux courses de nuit. Alors, bon, pour moi, c'est le Grand Prix carte postale, c'est clair. Il y a quand même quelque chose un petit peu bizarre parce que on nous a annoncé le Grand Prix à Bahreïn jusqu'en 2036. On nous a annoncé un Grand Prix au à Abu Dhabi jusqu'en 2030. Et là, on nous annonce simplement Las Vegas juste pour une saison, pour une date en 2023. Alors que d'habitude, on nous donne l'étendue du contrat. On nous dit, voilà, vous allez en prendre pour 5 ans ou 10 ans. Là, rien du tout. Donc, je ne sais pas si c'est un one-shot ou s'il y en aura d'autres après. On verra bien. Alors, pour moi, c'est l'emballage est très, très beau. Mais la piste est un petit peu décevante. On sait que ça ne va pas être une grande partie de pilotage. Ça donnera peut-être du spectacle. Et c'est la conclusion qu'on en tirera. C'était bien pour ça. Beaucoup de lignes droites, de la vitesse de pointe. Si le DRS fait son effet, voilà, ça sera un festival de dépassement. Peut-être que tout le monde sera content. En tous les cas, les pilotes s'en amusent. Hamilton a dit c'est une ville dédiée à la fête. Oui. Les pilotes vont avoir du mal à se concentrer.
Ouais.
Voilà, c'est ça ce week-end-là. Et Verstappen a même dit il nous faudrait 15 jours de vacances avant et 15 jours de vacances après. Mm. Bon, donc on sent un peu que ça va être festif. C'est en fin de saison. Ça sera peut-être aussi couplé avec Austin.
Ouais.
Voilà, il y aura deux Grands Prix qui seront assez proches géographiquement et dans la même période et sur la fin de la saison. Alors, Las Vegas avait déterminé les titres mondiaux lors des deux précédentes éditions en 81 et 82. Ça sera peut-être encore le cas, pourquoi pas. Donc, ça sera peut-être directement aussi historique.
Exactement. Alors, ce qu'il faudra voir aussi, hein, c'est la façon dont on va intégrer ce Grand Prix dans le calendrier, parce que du côté des organisateurs de la Formule 1, on parle d'un Grand Prix qui est l'alliance entre donc la Formule 1 et le glamour, entre le pinacle des sports mécaniques et donc le glamour. Moi, c'était plutôt la définition que je faisais du Grand Prix de Monaco. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, waouh, les organisateurs monégasques, là, ils doivent sentir un point rouge se balader un peu sur leur bus en disant, ouah, c'est chaud. Surtout que, d'après ce qui circule, l'avenir du Grand Prix de Monaco, il n'est pas tout à fait pérennisé.
Bah, il n'est pas pérennisé. 2022, c'est la dernière édition. Inscrite au calendrier, ça c'est sûr. Et il n'y a pas de contrat en place pour l'année prochaine. C'est ça le souci. Alors, on rajoute une troisième course aux États-Unis. Il y en a d'autres qui sont prévues. On va monter à 30. Dans les accords Concorde qui régissent en fait les droits commerciaux, le règlement technique aussi de la Formule 1, on peut avoir jusqu'à 24 courses en 2025, 2023, 2024 et 2025. Donc, on a encore un petit peu de marge. Mais on sent qu'il va falloir faire
de la place.
Faire de la place. Et c'est peut-être des Grands Prix historiques qui vont en pâtir. Alors, Moi, je me souviens d'une chose, c'est que en MotoGP, de 2008 à 2015, je crois, il y avait eu deux grands prix. Et en 2013, on en a même eu trois. Parce qu'on essayait de créer aussi un élan, quelque chose par rapport à ça.
Tu veux dire aux États-Unis ?
Aux États-Unis, il y avait Austin. Il y avait Laguna Seca. Il y avait eu aussi Indianapolis. Et ça n'a pas pris. Ouais. Ça n'a pas fait venir. Alors, deux marques américaines, ça, c'est il y en a une moins question. Sûr, mais deux pilotes, déjà. Même s'il y avait, voilà, il y avait un garçon comme Hopkins à l'époque. Mais. Donc, ça n'a pas créé de phénomène d'entraînement. Il y a quand même une écurie As qui tourne bien maintenant, mais il n'y a pas de pilote. Ouais. On essaie d'en sortir un. Andretti veut rentrer en Formule 1 en 2024, mais il faudrait que ce soit plus que trois rendez-vous dans la saison. Je pense qu'il faudrait vraiment s'attacher à un point de référence qui serait un pilote. C'est ça la question.
C'est ce que j'allais dire. En fait, là, tu as le sentiment que c'est vraiment une greffe à marche forcée de la Formule 1 aux États-Unis. Mais tant qu'il n'y aura pas de pilote américain qui sera aux avant-postes, pour moi, ça ne peut pas prendre. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que la Formule 1, c'est l'univers de la technicité vraiment ultime en automobile, quelque part du secret. Et le sport mécanique aux États-Unis, pour l'avoir un petit peu côtoyé, c'est exactement l'inverse. Alors, je ne vais pas dire qu'on roule avec des voitures de 1950, mais quelque part, la technicité des autos, ça passe au deuxième plan. Ce que le public veut, c'est pouvoir s'approcher des voitures, pouvoir s'approcher des pilotes et des équipes. Et on est à l'opposé de ça en Formule 1. En Formule 1, on met même des panneaux devant les stands quand on répare les voitures. Ouais. Bah, aux États-Unis, mais vous leur faites ça, mais c'est une émeute, c'est pas possible. Donc là, il y a vraiment deux paradigmes qui vont se regarder en chien de faïence, à mon avis. Et je suis pas. Alors oui, là on a vu même les images. Le hasard fait que Miami a aussi communiqué sur son Grand Prix. On a vu des images avec un téléphérique, avec ça va être hallucinant, ça va être génial.
On entre dans le show. Et moi je me disais quand même que Las Vegas, ça sera peut-être quelque chose de complètement différent. Moi pour moi, ça va un petit peu ressembler à Singapour, dans une ville avec. Mais ça va être. Moi pour moi, le Grand Prix carte postale. On va faire le tour un petit peu des attractions de la ville, des points de repère que beaucoup de gens ont. C'est une ville qui vit. Il y a une extraordinaire effervescence. C'est le show. Et on est parti sur la Formule 1 à la mode américaine. Là, je viens de voir qu'à Miami, il va y avoir une parade des patrons d'équipe pendant 5 minutes qui vont défiler après les pilotes.
Avec des oreilles de Mickey.
Je ne sais pas du tout. Mais parce que
il y en a quelques-uns qui.
Netflix est passé par
déjà.
Là. Et aux États-Unis, on connaît. Qui est Gunther Steiner, on connaît Toto Wolff, on connaît Christian Horner, et on mise aussi là-dessus. Voilà, ce sont des points d'accroche, et je trouve qu'il ne faut pas reculer devant ça, clairement. Et puis, je te disais quand même, Gilles, que il y a quelque chose qui démarre quand même, parce que Austin est installé au calendrier depuis 2012. Je te rappelle les chiffres de fréquentation du circuit l'année dernière, 140 000 spectateurs le dimanche, plus de 400 000 sur les trois jours. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que maintenant, on va peut-être demander à faire de la place à des grands prix comme Monaco, c'est un petit peu gênant. Il y a quelqu'un comme Zak Brown, le boss de McLaren, qui pointe ça, parce que Monaco, au titre de grand prix historique, avait droit à une grosse ristourne de la part de Bernie Ecclestone, qui disait ils apportent tellement au championnat qu'on leur fait un petit prix sur le prix du plateau, ce qu'on appelle en fait le prize money. Globalement, c'est une somme inversée qui sera redistribuée à toutes les équipes en fin de saison pour faire venir la Formule 1 pour avoir un événement. Alors, les derniers événements, c'est des grands prix comme Miami qui paye 50 millions d'euros. Maintenant, le ticket d'entrée, c'est ça. Et Monaco, ça serait 5 millions d'euros, simplement. Et Zak Brown dit, là, maintenant, c'est fini. Il va falloir se mettre à niveau parce que le prestige, c'est bien. C'est pas tellement fait pour la course. Il dit, les voitures sont plus grandes, ça va être encore plus difficile de dépasser cette année.
En parlant de Monaco. Hein.
C'est ça, honnêtement, on n'aura pas de spectacle à Monaco. Et je crois qu'il a un petit peu raison là-dessus, ça se joue essentiellement en qualif.
Rappelle-moi, il est américain.
Oui, ouais. et surtout, il dit, il faut donner de la valeur au championnat, il faut donner une contribution financière, et Monaco doit le faire aussi. Bon, je remarque quand même que Monaco, c'est le défilé des sponsors, toute l'année, et que la McLaren a roulé dans une livrée spécial golf qui Monaco. Était magnifique l'année dernière à Monaco et que Zak Brown a fait un petit supplément aussi financier là-dessus. Je pense donc qu'il faut un petit peu raison garder et équilibrer tout ça, mais il y a d'autres grands prix aussi qui sont en danger, en tous les cas qui doivent renouveler leur contrat, qui sont en fin de contrat. On pense à la Belgique, on pense à la France, ce sont des grands prix historiques là aussi, et on nous annonce et ça aussi c'est passionnant, c'est génial, l'Afrique du Sud, potentiellement, dans les années à venir, donc il faudrait faire de la place sur ces Grands Prix-là, mais quand on voit que Imola a re-signé aussi, moi je suis un petit peu gêné de ça.
Voilà. Je suis un petit peu inquiet, surtout, pour quelques belles destinations, voilà, à Monaco, Spa, clairement, voire même Monza, éventuellement, assez inquiet.
Souviens-toi, Bernie Ecclestone a mis la pression sur Monza pendant plusieurs années, il a mis la pression sur Silverstone, ils ont sauvé le Grand Prix plusieurs fois au dernier moment, donc là maintenant, plus personne n'est assuré de sa place en Formule 1, à part ces Grands Prix-là, où, qu'on nous annonce, je te dis, pour les 5, 10 ou 15 prochaines années au calendrier.
Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui dans notre podcast Les Fous du Volant. On va quand même vous donner les rendez-vous importants du week-end qui arrive. Où là, il faut quand même dire que on se lèche les babines de retrouver Albert Park et l'Australie. Ça sera le troisième Grand Prix de la saison. On y revient pour la première fois depuis 2019. En tout cas, on y court pour la première fois depuis 2019. Hein. Rappelez-vous, en 2020, on y était allé. Et puis finalement, on avait tout remballé avant de rouler. Le début des essais libres, la première séance débutera vendredi à 5h du matin. Hein, là, le réveil, il va chauffer, je te le dis, mon pote. La qualif, samedi à 8h. Et le Grand Prix sera, lui, dimanche à 7h du matin. Vous aurez même le temps d'aller chercher les croissants, de nous les amener si vous voulez, ici les Moulineaux. Parce que tu seras sur le pont, toi.
Ouais, tout à fait.
Exactement. Bon, en tout cas, on est pressé de voir ce que va donner ce troisième Grand Prix. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière-là, dès que Stéphane et moi, on vous fera un nouvel opus des Fous du Volant, ça arrivera directement sur votre tablette. On se donne rendez-vous donc après le Grand Prix d'Australie pour un nouveau numéro du Fou du Volant. Et d'ici là, on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.